Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. À 13 ans, il était sûr de devenir plus tard un grand écrivain français. Il remplacerait Anatole France. Il était d'origine russe. Il saluait, dans la mémoire du siècle qui lui était consacrée le 9 février 1992 sur France Culture, il saluait les écrivains soviétiques qui avaient choisi de s'exiler et avaient ainsi sauvé l'honneur de la littérature russe. Oui, le 9 février 1992, il n'avait pas espéré vivre assez longtemps pour voir finir la fin de cette ignominie, disait-il, la terreur stalinienne. Staline, à qui il avait, jadis, écrit une lettre. 1992. Il faudra plusieurs générations pour reconstruire, là-bas, une personnalité humaine normale, sur des valeurs normales, pronostiquait-il. Lui-même avait été emprisonné pour propagande antisoviétique. Il est vrai qu'il racontait, autour de lui, la vie en France.
Mémoire du siècle, Dimitri Sezeman, par René Elkaïm Bollinger. Il parle d'Anna Akhmatova et de Marina Tsvetaeva avec force et passion. De Pasternak aussi et des intellectuels russes de son époque, avec perspicacité et fougue. Son métier, traducteur. Son recours, l'humour. Il a passé 40 ans de sa vie en URSS, dont deux dans les camps, et enseigné à Nanterre la littérature et la civilisation russe. En 1979, il publie aux éditions Lafon un livre intitulé « Tout est calme à Moscou », où il imagine ce que pourrait être un putsch militaire qui mettrait fin au régime communiste. Tout au plus 15 lecteurs, dit-il en riant de lui-même. Interrogé sur sa vie, il se décrit comme un passeur de frontières.
S'il y a quelque chose qui a été constant dans ma vie, c'est au fond d'être un immigré.
Alors racontez-moi comment, au début, vous avez émigré. Vous m'avez dit que vous avez émigré dans le ventre de votre mère.
Oui, oui, c'est dire à quel point c'était une vocation précoce. Effectivement, ma mère appartenait à un milieu universitaire de Pétersbourg. C'est le cas ou jamais de le dire maintenant que Pétersbourg, Dieu soit loué, est redevenu Pétersbourg. Ma mère était donc d'une famille universitaire de Pétersbourg et donc éduquée dans l'esprit classique de cette intelligentsia russe qui avait mauvaise conscience. Elle avait mauvaise conscience parce que le régime était injuste, parce qu'il fallait faire quelque chose, parce que le tsar était méchant, le peuple croupissait dans la misère. Et elle avait fait des études, elle avait accédé à la culture. Elle avait donc à la fois une culpabilité et une responsabilité. Et donc, il y avait cette espèce d'idée de la révolution qui doit venir et à laquelle il faut travailler pour enfin libérer le peuple. Elle s'appelait Nina. Sa mère à elle, ma grand-mère, était d'une famille de très vieille noblesse russe, alors que son père, mon grand-père, était à l'inverse d'une famille de marchands. Mais il avait fait des études, il était devenu un scientifique éminent, membre de l'Académie des sciences, etc. Ma mère était un personnage tout à fait intéressant. Elle était ce qu'on appelle une nature artistique, c'est-à-dire qu'elle avait une jolie voix, elle chantait agréablement, elle avait suivi quelques cours de peinture et de dessin. Elle tombait amoureuse des poètes russes de son temps. Nature artistique, c'est-à-dire ce qui est une façon polie de parler de dilettantisme. Elle est née, si je ne me trompe, en 1893, donc à la veille de la Révolution, elle a 16 ans, 17 ans, c'est une toute jeune fille qui suit des cours dans une institution de jeunes filles. Elle distribue, elle balade dans son sac de dame des tracts, des proclamations flamboyantes et incendiaires. Et donc, elle accueille la révolution avec joie. Elle accueille tout ça avec joie en se disant que, enfin, va venir cette espèce de réconciliation fraternelle, mondiale, tout ce que vous voulez. Et très vite, comme pas mal d'autres intellectuels, elle voit que les choses ne sont pas aussi radieuses qu'on pouvait l'espérer. Même un homme comme Maxime Gorki, le grand écrivain prolétarien et qui était une horrible canaille, lui aussi, qui était un grand copain de Lénine, tout au début, il a été un peu horrifié de ce qui se passait. Et assez curieusement, très vite, 2 ans se passent, 3 ans, et ma mère est embringuée dans des conspirations de jeunes officiers blancs, des conspirations anti-bolcheviques. Et c'est à ce moment-là, donc, qu'elle doit fuir sur les glaces du golfe de Finlande, sous le sifflement des balles des gardes rouges. Je dis ça un peu pour faire joli, mais enfin, c'était quelque chose de ce genre-là. Elle a donc fui, enceinte 2 mois jusqu'aux dents, et arrivée à Helsingfors, qui s'appelle aujourd'hui Helsinki, la Finlande, c'est là qu'elle me met au monde. C'est en 1922, le 6 février. Et alors c'est là donc que commence notre vie d'émigré. On vit quelque temps donc en Finlande et puis on se déplace, on va en Lituanie qui était à l'époque un pays libre comme maintenant de nouveau. Puis on va en Allemagne, on vit quelque temps à Berlin. Berlin qui était à cette époque, nous sommes donc en 22-23, un endroit tout à fait remarquable. Vous savez, Berlin, n'oubliez pas que c'était avant Hitler, et c'était l'Allemagne était un pays, et Berlin était une ville de grande misère, parce que l'Allemagne ne s'était pas remise de la guerre, il y avait une inflation épouvantable, c'était vraiment la catastrophe, c'est pour ça que Hitler a pu émerger. Et en même temps, il y avait une vie intellectuelle extraordinaire. Et c'était un haut lieu de la pensée russe et de la création. Il y avait énormément d'écrivains russes. Et ces gens qui étaient habillés comme ils pouvaient, qui ne mangeaient pas tous les jours à leur faim, passaient des soirées interminables à discuter de l'avenir de la Russie. Est-ce qu'il faut se rallier à la révolution ou non? Est-ce qu'il faut la soutenir ou est-ce qu'il faut la combattre? Est-ce qu'il faut rentrer au pays ou est-ce qu'il faut aller ailleurs? C'était, autant que je puisse en juger, j'avais 2 ans, vous imaginez, c'était tout à fait passionnant. Ça a été tout à l'honneur de ceux qui, à l'époque, ont décidé de continuer à vivre en tant qu'émigrés malgré cette condition misérable et qui ont préservé une liberté de pensée et d'expression, qui ont préservé des valeurs qui étaient celles de la littérature russe d'avant la Révolution, qui pouvaient se réclamer de Tolstoï, de Dostoïevski, de Pouchkine, de Tchekhov, et qui ne se sont pas compromis dans ce qu'il faut bien appeler l'abjection de la littérature officielle. de la littérature aux autres, de la littérature qui écrivait ce qu'on lui ordonnait d'écrire.
Est-ce que vous pensez à Maïakovski ?
Écoutez, la réponse à votre question vient du fait que Maïakovski a fini par se tirer une balle dans le cœur. C'était un homme d'un talent absolument extraordinaire, d'un génie peut-être, et qui a voulu se mettre au service du nouveau pouvoir. Vous savez, Maïakovski a dit une chose tout à fait extraordinaire. Il a dit « Moi aussi, j'aurais voulu composer des chants lyriques, mais je me suis dompté et j'ai marché sur la gorge de ma propre chanson. » Ce qui était rare comme lucidité, comme aveu. Je ne sais pas si nous aurons le loisir de parler de cette espèce d'épouvantable martyrologe de la littérature soviétique, de ces gens qui ou bien se sont tués comme Yessénine ou Marina Tsvetaïeva, ou qui sont morts fusillés comme Isaac Babel, ou qui sont morts misérablement dans un camp, dans un bagne comme Ossip Mandelstam, ou qui ont survécu au prix de 1000 compromissions comme Boris Pasternak, qui était pourtant un immense poète, ou comme Akhmatova, qui a échappé à tout ça par une espèce de miracle. Pour en revenir à 1924 et à Berlin, 1923, je veux dire que ces gens qui ont choisi de s'exiler, ils ont sauvé l'honneur de la littérature russe.
Alors vous étiez de 1924 à 1937, vous avez vécu à Paris.
Alors effectivement, j'ai vécu donc toute mon enfance et mon adolescence en France. J'étais en train de lire un livre chez nous, dans la cuisine, je lisais un livre. Ma mère est entrée, elle a regardé le titre du livre que je lisais, c'était « Les dieux ont soif ». Elle a réfléchi un instant, elle m'a dit, au fait, est-ce que tu sais que nous sommes arrivés à Paris le jour des obsèques d'Anatole France ? J'étais comme frappé par la foudre. Ça m'a semblé quelque chose d'extraordinaire. À ce moment-là, je devais avoir 13 ans. J'adorais la littérature. Je rêvais, ou plutôt je ne rêvais pas, j'étais sûr que je serais un grand écrivain. Et donc d'apprendre qu'Anatole France était mort, ou plutôt avait été mis en terre le jour de mon arrivée à Paris, ça m'a semblé un signe du destin. De toute évidence, j'étais appelé à succéder à Anatole France. Et Anatole France, en quelque sorte, avait attendu pour mourir et se faire enterrer que j'arrive enfin.
Qu'est-ce que ça représentait, la France, pour vous ?
La France, c'était le pays dans lequel je rêvais de m'intégrer tout à fait. Mon grand rêve, pendant des années, a été d'être comme les petits Français, comme mes petits camarades à l'école ou au lycée. C'était ça que je voulais. Or, j'étais un étranger. J'étais un petit métèque, comme on disait à l'époque. Et on ne se privait pas de me le faire sentir. Et pour anticiper un petit peu, mon adhésion aux jeunesses communistes à l'époque venait de ce que chez eux, chez elles, chez ces jeunesses, il n'y avait pas cet esprit-là. Je voulais être français. Mais toujours est-il que, à partir du moment où j'ai commencé à peu près à prendre conscience de ce qui m'entourait, je me suis trouvé dans un milieu russe, de gens qui parlaient, il s'était passé combien, 7 ans, 8 ans, 9 ans, qui parlaient avec enthousiasme, ferveur, presque adoration de l'Union soviétique. Qui allait au cinéma pour voir les films soviétiques de l'époque et surtout les actualités, qui lisait des journaux soviétiques et qui lisait à haute voix dans la cuisine des discours de Staline en s'enthousiasmant de chaque phrase, de chaque mot, qui se réunissait pour chanter les nouvelles chansons soviétiques et qui était absolument prêt à tout pour faire oublier qu'ils avaient combattu l'Union soviétique.
Oui, mais alors ça, c'était des gens qui étaient attirés, fascinés par ce qui se passait en Union soviétique à ce moment-là, mais ce n'était pas du tout les Russes blancs que vous pouviez fréquenter dans la minorité russe installée à l'époque, à Clamart, etc.
C'est-à-dire que la distinction est très vague.
Ça se mélangeait.
Au départ, ils étaient tous des Russes blancs, dans le sens que l'on donnait à ce mot russe blanc,
ça voulait dire
les émigrés qui avaient fui le régime bolchevique. Comme dans toute émigration, c'était très, il y avait beaucoup de tribus. Il y avait ceux qui auraient voulu le retour du tsar, il y avait ceux qui étaient de tendance plutôt libérale, démocratique, il y avait de tout. Et une fraction de cette émigration est venue à l'idée qu'elle avait eu tort, qu'elle avait commis un crime par rapport à son pays et au peuple, et qu'elle devait racheter ce crime. Et ce qui est affreux à se remémorer et à dire, c'est que le pouvoir soviétique, les services secrets soviétiques ont parfaitement compris tout le parti qu'ils pouvaient tirer de cela. Pensez donc qu'ils avaient, en la personne de ces émigrés, des gens qui étaient déjà plus ou moins implantés dans ce pays, la France, et qui étaient prêts à tout pour démontrer qu'ils s'étaient repentis et que maintenant ils aimaient le pouvoir des soviets et qu'ils feraient n'importe quoi pour se faire pardonner. Et on a obligé ces gens à faire n'importe quoi.
On a obligé votre mère, particulièrement.
On a obligé ma mère, on a obligé le mari de Marina Tsvetaeva, on a obligé mon beau-père, ma mère s'était remariée dans l'intervalle, à commettre des crimes. Ma mère, par exemple, elle a été chargée de repérer, de localiser Trotsky. C'était en 1936, donc, parce que Staline voulait tuer Trotsky, et comme vous le savez, il y a finalement réussi en 1940. Et donc, ma mère a été chargée de le trouver, de le localiser exactement.
Vous étiez avec elle, non ?
Et j'ai été avec elle, j'avais 14 ans, nous sommes allés en Norvège. On savait à peu près où il était, cette petite ville non loin d'Oslo, où il était, et on l'a trouvé, je l'ai vu, ce brave Léon. Je n'ai aucune sympathie pour Trotsky, tout ça, c'est exactement, vous savez, Trotsky, Staline, Lénine, c'est exactement la même association de malfaiteurs et de grands massacreurs. Simplement, je trouve qu'il n'est pas bon de tuer les gens. Et nous avons donc découvert Trotsky, on a communiqué ce renseignement à qui de droit, et si Trotsky avait été tué en Norvège et non pas au Mexique, je me retrouverais aujourd'hui comme complice direct de l'assassinat de Trotsky.
Ces intellectuels russes, fasciné par l'aventure soviétique à cette époque. Est-ce que ce sont des gens qui, par ailleurs, ont eu l'occasion de se pencher sur les conditions de vie des petites gens, des paysans, des ouvriers en Union soviétique?
Dans les années 70 et 80 du siècle dernier, il y a eu cette espèce de mouvement qui s'appelait « Khajdienye v Narod ». Ça voulait dire « aller vers le peuple, dans le peuple ». Les intellectuels devaient aller au peuple, c'est-à-dire essentiellement à la paysannerie. Il n'y avait guère d'industrie à l'époque, la paysannerie, pour leur porter la bonne parole. Ils ont été très mal accueillis. Mais alors là, vraiment très mal accueillis, ces demoiselles et ces messieurs qui venaient de la ville pour leur expliquer les choses, les paysans n'ont pas du tout aimé ça. Mais alors là, pas du tout. Et la plupart du temps, ils s'empressaient de les livrer aux autorités. Je me souviens très bien de ma mère, qui était une dame assez étonnante, qui avait une espèce de tempérament sceptique, ironique. Mais là, tout disparaissait quand elle voyait sur l'écran ces Kolkhoziens heureux. Et ça lui suffisait. Il ne lui fallait pas autre chose. Alors, dans le même temps, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'était l'époque où déjà des signaux parvenaient de là-bas sur ce qu'était la réalité. Et on refusait de les voir. À la suite de la collectivisation, des villages entiers disparaissaient, mouraient de faim, ou bien étaient déportés parce qu'ils avaient refusé la collectivisation. Ça finissait par se savoir. Mais ils ne voulaient pas entendre ça. Je me souviens très bien, quand André Gide est allé là-bas, et qu'il a, à son retour, il a écrit ce fameux petit livre « Retour de l'URSS ». Quand on le lit aujourd'hui, c'est bien anodin. Mais le fait même qu'il ait osé critiquer, dans ce milieu où j'étais, on l'a couvert de boue, André Gide. Quel crime avait-il commis? Il a voulu aller voir. Il ne s'est pas contenté de ce qu'on lui racontait ou de ce qu'on lui montrait au cinéma. Il n'y a pas qu'André Gide, je me souviens très bien, il y avait un monsieur qui s'appelait Panait Istrati, qui était roumain, je crois, et qui avait aussi été ce qu'on appelle un compagnon de route. Et il était allé lui aussi en Union soviétique. Ce qu'il a vu l'a sidéré. Quand il en est reparti, il a écrit ce qu'il avait vu. Et il a envoyé son manuscrit à Romain Rolland, grande conscience européenne. Et Romain Rolland lui a répondu par une lettre qui existe et que l'on peut consulter. Et dans cette lettre, il dit « Mon cher ami, votre livre est un admirable témoignage que vous devez à votre conscience, votre talent, mais ne le publiez pas. Ne le publiez surtout pas, ça serait... » Donc, ces grandes âmes qui acceptaient le mensonge plutôt que de voir s'écrouler leurs rêves. C'est là la trahison des intellectuels, dont la mission est, au contraire, de témoigner envers et contre tous. Et quand Sartre refuse de publier ce que lui dit Koestler, pourquoi, sur les camps soviétiques? Parce que ce serait faire le jeu de l'impérialisme américain. Sartre trahit sa vocation d'intellectuel. Thank you. en 1935 ou 36, je peux me tromper d'un an, mon grand-père, qui était, comme je vous l'ai dit, un savant éminent, et qui déjà à cette époque avait quelque chose comme 80 ans, le gouvernement soviétique lui a permis de se rendre à Paris pour consulter un chirurgien français qui pouvait l'opérer. Et donc, il est arrivé avec sa femme, ma grand-mère. Ma grand-mère vivait donc chez nous. Et ma mère lui disait, à sa mère, à elle, donc, elle lui disait, tu sais, je veux rentrer au pays. Et ma grand-mère lui disait, tu es complètement folle. C'est une chose à ne pas faire. Il se passe chez nous des choses affreuses. On arrête les gens à tour de bras. On envoie les gens au bagne comme ça pour rien. Les gens disparaissent. On ne sait pas où ils sont ni rien. Tu es complètement folle. Tu risques ta vie et celle de tes enfants. Et ma mère à moi lui répondait, tu ne sais pas, tu ne comprends pas à quel point est grandiose ce qui se passe chez vous. En Union soviétique. C'est un très bel exemple de ce qu'on peut appeler l'aveuglement consenti ou ce que la Boétie appelait la servitude volontaire.
Vous aviez quel âge quand vous êtes retourné ? 15
ans. Il faut vous dire que 1937, pour n'importe quel Russe, pour n'importe quel Soviétique, c'est une année abominable. C'est l'année où culmine la terreur stalinienne. Nous sommes arrivés en train. Nous étions, ma mère et moi, les autres étaient partis avant, nous étions deux. Et il y avait donc un abattant hein, près de la fenêtre du compartiment, et il y avait un cendrier. Un cendrier en matière plastique qui, à l'époque, ne s'appelait pas matière plastique, mais ébonite, quelque chose comme ça. Je l'ai pris. Et j'ai vu, en dessous, deuxième qualité. Et j'ai dit à ma mère, tu vois, est-ce que tu as jamais vu en France, sur quelque chose, deuxième qualité ? C'est toujours première qualité, ou extra, ou qualité supérieure. Nous voici enfin arrivés dans le pays où on ne ment pas. Dès la frontière passée, je me voyais conforté dans mes idées les plus radieuses. Nous sommes arrivés à Moscou et comme j'étais un jeune homme très politisé, je lisais beaucoup de journaux en France. Et arrivé à Moscou, je me suis dit, je vais aller acheter les journaux. Je descends donc dans la rue, il faisait beau, j'avise un kiosque à journaux. Je m'approche du kiosque et je dis au monsieur qui vend les journaux, je lui dis, est-ce que vous avez des journaux français ? Alors, d'abord, il n'a pas compris ce que je lui demandais, il ne comprenait pas. Puis après, il m'a dit, écoutez, non, je n'ai pas de journaux français, mais si vous allez place Pouchkine, vous verrez un grand immeuble qui s'appelle Maison d'édition des travailleurs étrangers en URSS, et où vous trouverez ce que vous cherchez. Alors, je monte dans un autobus, je traverse la Place Rouge. À l'époque, les autobus circulaient sur la Place Rouge. Je remonte la rue Gorki et j'arrive Place Pouchkine et je trouve enfin ce magasin. Effectivement, je vois des journaux. Et je demande à la demoiselle qui est là si elle a des journaux français. Elle me dit, mais bien sûr. Et elle me tend l'Humanité. Alors moi, je suis tout content. Seulement, moi, je lisais différents journaux. Et je dis, mais est-ce que vous avez d'autres journaux français ? Et la jeune fille me fait une réponse magnifique. Elle me dit d'autres, mais il n'y a pas d'autres journaux français. Alors à ce moment-là, j'ai eu comme la vague intuition que quelque chose ne tournait pas rond.
En 1939, votre mère est arrêtée.
Oui. Ma mère, mon beau-père, la fille de Marina Tsvetaïeva, tout le monde a été arrêté. Nous vivions dans une datcha, une très belle datcha, c'est-à-dire une maison de campagne, des environs de Moscou, qui avait été mise à la disposition de ma mère et de la famille Tsvetaïeva par les services secrets, le KGB. Et c'est là qu'on est venu les chercher, les arrêter. Alors, le mari de Marina Tsvetaïeva a été fusillé, mon beau-père a été fusillé, ma mère est morte de faim et de mauvais traitements en 1943 dans un camp. La fille de Marina Tsvetaïeva a survécu. Quant à moi, j'ai eu la chance d'avoir à cette époque été atteint de tuberculose. Je me trouvais à l'hôpital et on m'a en quelque sorte oublié. Je n'ai donc pas été arrêté, mais j'ai été arrêté plus tard, quand j'ai un peu grandi et quand j'étais étudiant à l'université. C'est là qu'on est venu m'arrêter. Donc tout ça se passe en 1939 et on peut dire que, en quelque sorte, c'est là que a commencé vraiment mon immersion dans la réalité soviétique de ce temps. Le code pénal comportait un article célèbre, l'article 58. L'article 58 du code pénal, qui comportait 14 paragraphes, permettait de mettre en prison quelqu'un pour n'importe quoi. Par exemple, quand on est venu m'arrêter, on m'a accusé de propagande anti-soviétique. En quoi consistait la propagande anti-soviétique ? Je racontais ce qu'avait été la vie en France. Or, comme la vie en France était meilleure que la vie en Union soviétique, cela constituait de la propagande anti-soviétique. Mais pire encore, c'était pendant la guerre et Staline venait de recevoir le grade de maréchal. Et j'avais eu la mauvaise idée de dire à quelqu'un: mais enfin, pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de se faire attribuer ce titre de maréchal ? Et la personne à qui je l'ai dit s'est empressée d'écrire une dénonciation comme quoi le dénommé Sezeman se livre à des attaques personnelles contre le camarade Staline. Vous savez, quand je vous ai parlé de mon immersion dans la vie soviétique, qu'est-ce que j'entendais par là ? J'entendais par là qu'à partir de ce moment, et pendant 40 ans, j'ai vécu dans la peur. La peur. La peur a été l'élément dans lequel baignait la personnalité humaine. On avait peur. On avait peur de tout. On avait peur de chacun. C'est devenu non seulement l'élément dans lequel nous vivions, c'est devenu une partie de nous-mêmes, la peur. Comme le sens moral chez Kant. Kant disait « le sens moral vit en nous ». Et tout le monde avait peur, à cette époque, que quelque chose lui ayant été dit, il fallait me dénoncer, parce que si elle ne me dénonçait pas, moi j'étais capable, on ne savait pas qui j'étais vraiment, et donc je pouvais écrire « je lui ai dit ça pour vérifier si elle me dénoncerait, or elle ne m'a pas dénoncé ». C'est donc qu'elle était d'accord avec ce que je lui ai dit. Pour éviter cela, il fallait me dénoncer à mon tour. C'est un mécanisme absolument infaillible et qui marche toujours. Quand des camarades d'université, quand on est venu les interroger à mon sujet quand j'étais déjà en prison, essayez d'imaginer, on convoque un garçon de 20 ans, de 18 ans, de 19 ans, au KGB, qui est l'endroit qui sème la terreur. Il est épouvanté d'avance. Il ne sait pas encore ce qu'on va lui demander. Et ensuite, il comprend que la seule façon pour lui de ressortir libre de cet endroit, c'est de dire exactement ce qu'on lui demande qu'il dise. Et il dit exactement ce qu'il demande qu'on dise. Parce que personne n'est un héros. Et d'ailleurs, personne n'a le droit d'exiger des autres qu'ils soient des héros. On peut exiger de soi-même d'être un héros. On ne peut pas. Je n'en ai jamais voulu à ces gens parce que J'ai moi-même vécu dans cette peur de tous les instants. Je rencontre dans la rue quelqu'un, un camarade, un vieux copain, et je lui dis à propos, comment va un tel ? Et l'autre me dit, me regarde d'un drôle d'air et dit, comment, tu ne sais pas comment il va ? Il a été arrêté il y a 15 jours. Et il s'en va. Et je suis épouvanté, parce que je me dis, il sait que j'étais un copain de ce type qui a été arrêté, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant ? Et je crève de trouille de nouveau. Et comme ça, tous les jours, tout le temps, pendant des années et des années. Il faudra, pour revenir à ce qui se passe maintenant, il faudra plusieurs générations pour reconstruire là-bas une personnalité humaine normale, sur des valeurs normales. Il faudra plusieurs générations. Il ne suffit pas aujourd'hui de faire son mea culpa, de dire « on a été dégueulasse, on a supporté pendant des années tout ceci, sans protester, tout ça ». Il faut reconstruire à partir littéralement de zéro, il faut reconstruire une morale. Il faut reconstruire un système de valeurs qui puisse permettre à une société de vivre selon des règles et des lois humaines. Ça va être très difficile, ça prendra des années, peut-être des générations. Parce que ce que nous avons vécu, et je ne parle même pas de ce que j'ai vécu dans les camps, parce que les hommes ne sont pas faits pour ça. Et ce n'est pas vrai quand on vous dit que c'était une expérience enrichissante, les camps. L'homme n'est pas fait pour fouiller dans des poubelles, chercher des épluchures, il crève de faim. L'homme n'est pas fait pour être avili, il n'y a rien de plus avilissant que la peur. Par conséquent, toute mon expérience me dit, me confirme, que ce qui se passe maintenant en Russie est quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est vraiment historique, c'est le cas de le dire, et je n'espérais pas vivre assez longtemps pour voir l'effondrement de toute cette ignominie, mais ce n'est que le tout commencement de quelque chose qui donnera peut-être des fruits dans beaucoup d'années. J'ai trouvé dans les camps des milliers de gens qui avaient été des citoyens exemplaires, qui n'avaient absolument rien fait, mais simplement, dans la région où ils vivaient, le NKVD, c'est-à-dire le KGB, avait un plan. Il fallait arrêter 10 000 personnes. Et on arrêtait 10 000 personnes. Après, on disait à l'époque, pourvu qu'il y ait le bonhomme, pour ce qui est du dossier de l'accusation, on trouvera toujours quelque chose. Ce qu'il faut, c'est le bonhomme. Donc, avoir été arrêté et séjourné dans les camps comme moi, je n'y ai pas l'ombre d'un mérite. Je n'ai que le mérite d'avoir survécu. Tout à fait autre chose. Et pour les gens qui sont allés dans les camps après, quand 7 personnes sur 300 millions sont allées manifester sur la place Rouge contre l'invasion de la Tchécoslovaquie par l'armée soviétique, ces 7-là, vraiment, on peut leur tirer son chapeau. Ils ont droit à notre admiration, à notre gratitude, parce qu'ils ont, en quelque sorte, sauvé l'honneur. Nous, nous l'avons bouclé, moi comme les autres. Et eux, ils sont allés sur la place Rouge, ils ont déroulé une banderole sur laquelle il y avait écrit « Bas les mains devant la Tchécoslovaquie ». Et cette banderole a été déroulée pendant une quinzaine de secondes, jusqu'à ce qu'on leur tombe sur le paletot. C'était simplement une énorme entreprise. Nous n'allons pas nous appesantir là-dessus, parce que Il y a eu plusieurs raisons à ça. D'abord, il y a eu des raisons économiques. C'était une main-d'œuvre d'esclaves.
Qu'est-ce que vous faisiez ?
Oh, moi, j'ai fait des tas de choses très utiles à la société. D'abord, j'ai abattu des arbres dans l'Oural. Et puis ensuite, sur les bords de la mer Blanche, au-delà du cercle polaire, on faisait des travaux de terrassement. Vous savez, sur un sol complètement gelé, vous donnez un coup de pioche et vous faites sauter un petit morceau de terre comme ça. Et vous devez en faire en une journée 1 mètre cube ou 3 mètres cubes, ce qui est parfaitement irréalisable. Alors vous vous crevez à le faire. Donc il y a eu cette main-d'œuvre servile, n'est-ce pas ? Comment faire venir des milliers de gens dans un coin perdu de Sibérie pour construire un combinat métallurgique ? Eh bien voilà, on fait venir les paysans qui n'ont pas voulu de la collectivisation, qui n'ont pas voulu abandonner leurs terres. On les met dans des wagons à bestiaux, on les emmène là-bas.
Pendant les 2 ans que vous avez passés dans ces camps, qu'est-ce qui a été au fond le plus difficile ?
De n'avoir pas à manger. Une des choses que j'ai apprises, c'est d'être sceptique quand quelqu'un me dit « Il y a des souffrances morales bien plus graves que les pires souffrances physiques. » Ce n'est pas vrai. Pour éprouver des souffrances morales, il faut un support physique. Il faut une base, un appareil qui éprouve ces souffrances morales. Quand vous avez faim 24 heures sur 24, vous n'avez pas le loisir de réfléchir aux droits de l'homme et au fait que la justice a été bafouée quand on vous a mis en prison. Vous songez, où pourrais-je me procurer quelque chose de mangeable ? Et rien d'autre. L'histoire de ma famille m'a montré que des idées d'une extrême générosité et vraiment d'un idéalisme à toute épreuve peuvent conduire et ont conduit des êtres humains à des actions abominables. Et que le régime soviétique ait été, et le Parti communiste, et pas seulement en Union soviétique, et finalement constituer un appareil policier de répression, ne doit pas nous faire oublier qu'à l'origine, effectivement, il y a eu cet idéal. Mais moi, je n'en tire qu'une seule conclusion. Je suis un adversaire résolu de la peine de mort. Mais je rétablirai la peine de mort pour quiconque prétendrait savoir comment rendre l'humanité heureuse. Alors là, vous savez, j'en ai plein le dos des gens qui savent comment rendre l'humanité heureuse.
Dimitri Sezeman, vous êtes sorti des camps en 1944 et à ce moment-là, vous vous êtes engagé dans l'armée ou vous avez essayé de vous engager dans l'armée ?
Oui, c'était au plus fort de la guerre et j'avais parfaitement conscience que, c'est une des choses que j'avais comprises, c'est que la guerre et d'aller faire la guerre était une occasion, une possibilité inespérée de rentrer dans un circuit de vie normal. Parce qu'autrement, bon, j'avais donc pas le droit de vivre à Moscou, j'avais pas le droit de vivre dans aucune grande ville, j'aurais dû passer le reste de mes jours à végéter dans je ne sais quel trou en faisant je ne sais quoi. Tandis que là, il y avait la guerre, donc il fallait aller faire la guerre. Mais quand je suis venu pour m'engager, on m'a dit, on n'a pas besoin de gens comme vous qui viennent des camps. On n'a pas besoin de gens. Alors je me suis dit, il y a une seule personne qui peut m'aider à entrer dans l'armée, c'est le camarade Staline. Alors j'ai écrit une lettre au camarade Staline. Je lui écrivais que je suis parfaitement conscient de la gravité des crimes que j'ai commis et que je n'ai pas de vœu plus cher que de me racheter en allant verser mon sang pour la patrie. Une lettre de ce genre-là. Et 15 jours plus tard, je ne dirai pas que le camarade Staline m'a répondu, mais j'ai été convoqué au bureau de recrutement et on m'a dit « Vous avez écrit au camarade Staline ?» Je dis « Oui ». Eh bien, nous avons reçu l'ordre d'accéder à votre demande. J'en déduis que quelqu'un dans le secrétariat de Staline, où affluaient des centaines de milliers de lettres tous les jours, parce que Staline, c'était en quelque sorte le recours, quiconque était victime d'une injustice, d'une misère, tout le monde écrivait à Staline. Et donc, quelqu'un s'est dit, eh ben voilà quelque chose qu'on peut satisfaire, ça ne mange pas de pain, très bien, ça fera quelqu'un de content. Et c'est donc comme ça que j'ai été incorporé en qualité de troufion, de simple soldat, si bien que lorsque j'ai été démobilisé à la fin de 1945, j'étais un ancien combattant tout à fait normal, avec des états de service convenables, ce qui m'a permis de revenir à Moscou et de m'y installer avec tous mes droits.
C'est à ce moment-là que vous avez travaillé à Radio Moscou.
C'est à ce moment-là que ma connaissance du français m'a servi, elle m'a servi tout au long de ma vie, c'est-à-dire depuis que j'ai commencé à travailler à la fin de la guerre, Et jusqu'à la fin, j'ai utilisé le français. Ça a été mon outil de travail. Et donc, j'ai été engagé à la rédaction des émissions en langue française de Radio Moscou, où j'ai travaillé pendant 10 ans. Et ensuite, j'ai été engagé à la rédaction en langue française de l'hebdomadaire de politique internationale Temps Nouveau, où j'ai travaillé jusqu'en 1976. Toutes ces années, j'ai travaillé dans les services de la propagande soviétique. Tous les jours, je disais ou j'écrivais des choses qui étaient exactement à l'opposé de ce que je pensais vraiment. J'étais bien payé pour ça, j'avais un bon statut social dans Moscou. Je ne pouvais pas faire autre chose. Quand on y pense, c'était une espèce de déshonneur quotidien. C'est-à-dire que, vous comprenez que je devais, par exemple, rentrer chez moi. J'essayais, mettons, d'éduquer ma fille dans certains principes qui m'avaient été jadis inculqués, tout en faisant moi-même, tous les jours, exactement l'inverse. Et dès qu'elle a été en âge d'aller à l'école, qu'est-ce que je lui ai dit? La première chose que je lui ai dite, surtout ne va pas répéter ce que tu entends dire à la maison. C'est-à-dire que je formais cet enfant à cette double mentalité, à cette double vie, à cette double morale, c'est-à-dire à ce mensonge institutionnalisé qui était notre vie à tous et que nous-mêmes nous avons perpétué, démultiplié et renforcé.
Thank you.
Vous étiez en France quand vous avez lu Solzhenitsyn ?
Ah non, j'ai été à Moscou quand j'ai lu Solzhenitsyn. C'était fin 1962, lorsque est paru son récit « Une journée d'Ivan Denisovitch ». Et des amis que j'avais m'ont donné, un ou deux mois avant sa parution, le texte. Et je me souviens très bien, c'était un nom qui ne disait rien à personne, Solzhenitsyn, c'est un nom assez comme ça compliqué, personne ne savait qui c'était. Et tout d'un coup, je lis ce texte et j'ai pleuré de soulagement. Parce que je me suis dit, voilà quelqu'un qui a fait ce que moi et des millions d'autres n'avons pas fait. Il a raconté comment c'était. Et j'avais l'impression d'un poids qui me tombait des épaules, que voilà, ça au moins ça a été dit. On était encore loin de l'archipel du Goulag qui est venu par la suite, où on a vu cette horreur dans toute son ampleur. Mais la vie quotidienne du camp, dans ce qu'elle avait d'inhumain, enfin elle était dite. C'est pour ça, quand vous me parlez de Solzhenitsyn, je dis que nous avons tous, et le peuple russe, a une dette inexpiable envers Solzhenitsyn. Il a fait quelque chose dont on ne lui sera jamais assez reconnaissant. Alors l'ennui, c'est que très souvent, moins maintenant, mais pendant un certain temps, il a développé des idées sur l'avenir de la Russie, etc., qui me sont profondément étrangères. Il a écrit des choses contre la démocratie représentative, contre le pluralisme, etc. Et il y a eu de très grands débats dans le milieu russe. Mais ça n'a plus d'importance. Solzhenitsyn reste celui qui a, pour parler un peu pompeusement, qui a donné une voix à des millions de gens qui sont morts misérablement dans les camps et dont on croyait qu'ils ne pourraient plus jamais parler.
Quels sont vos rapports avec celui qu'on pourrait appeler Dieu ?
Je ne suis pas un très bon chrétien. J'ai été élevé dans la religion orthodoxe. C'est encore une chose assez intéressante. Ma mère m'a donné une éducation religieuse. J'allais à l'église, je communiais, je me confessais. Et son bolchevisme ne l'empêchait absolument pas. C'était comme ça. Voilà. L'un allait très bien avec l'autre, avec cette idée horrible, que le bolchevisme, le communisme, est peut-être un aboutissement de la doctrine chrétienne. Vous voyez qu'il y a des valeurs chrétiennes, et bien ce sont celles qui vivent dans le communisme, ce qui est une idée abominable. Vous savez, Pascal disait, il ne faut pas parler de Dieu, il faut parler à Dieu. Alors je m'en tiendrai là.
Qu'est-ce qui vous a le plus aidé, Dieu ou l'humour ?
Ça dépend des circonstances. Il y a eu des circonstances où j'ai dû faire appel ni à Dieu ni à l'humour, mais à l'instinct de conservation, ce qui est quelque chose de purement biologique et physiologique. Vous savez, du temps de Staline, on n'avait pas vraiment le cœur à rigoler. Mais après, quand la terreur la plus sanglante s'est terminée, l'humour nous aidait beaucoup. Je n'ai jamais été un dissident actif, je n'ai jamais rien fait qui eût dû me valoir d'être encore une deuxième fois arrêté. Et cette résistance au régime, elle était très égoïste. On voulait préserver, n'est-ce pas, sa propre personnalité et on tournait en dérision tout. C'était donc quelque chose d'assez mesquin et d'assez petit. Ce n'était pas du tout une vraie résistance, c'était plutôt une self-conservation.
Dimitri Sezeman, en 1979, vous avez publié chez Lafon un livre intitulé « Tout est calme à Moscou ». Qui était un petit peu une préfiguration du putsch militaire.
Oui, c'est un livre où j'ai pris mes désirs pour des réalités. J'ai fait un petit livre de politique fiction pour montrer comment, selon moi, ça pourrait se passer. Et ça ne s'est pas passé du tout comme je l'ai décrit. Par exemple, chez moi, les héros de ce livre sont les militaires, justement. Parce que je m'étais dit, il y a trois forces en Union soviétique. Il y a l'armée, il y a la police et il y a le parti. On ne peut pas compter sur la police qui est aux ordres du parti. Et on ne peut pas compter sur le parti puisque c'est de son pouvoir qu'il s'agit. Il n'y a donc que l'armée. Et pour moi, donc, il y avait l'armée. L'armée qui a une espèce de prestige parce qu'elle a gagné la guerre quand même, parce que c'est quelque chose d'un peu moins politisé. Et je me disais, voilà, ça c'est la force qui pourrait faire tomber le pouvoir soviétique. En réalité, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais, et j'en tire quelque orgueil, il y a des choses que j'ai décrites assez bien 12 ans à l'avance. Par exemple, j'ai un chapitre décrivant la chute du mur de Berlin à peu près exactement comme ça s'est passé en réalité. J'ai écrit que les premiers ennuis viendraient, après la chute du parti, des pays baltes et de Transcaucasie, de Géorgie ou d'Arménie. Ça, je suis assez content parce que c'est amusant. Aujourd'hui, je suis très heureux de ce qui se passe en Union soviétique. Je suis très heureux d'une liberté retrouvée de l'expression. Bon, les gens vivent dans des conditions économiques maintenant affreuses là-bas, les dangers sont présents, ça. Mais du moins, les gens s'expriment librement. Ma femme m'a ramené de Moscou 4 kilos de journaux qui se vendent là-bas dans la rue, où l'on dit tout et n'importe quoi, vraiment. Il y a là-bas une liberté d'expression qui est exactement celle qu'il y a en France. Elle m'a rapporté un journal qui est monarchiste et qui se dit monarchiste et qui dit le plus grand bien du défunt tsar, etc. Bon, mais ça ne suffit pas. Il y a un renouveau intérieur, spirituel, moral, qui ne peut se faire qu'à très petits pas. À très petits pas. Et on dit qu'il y a en ce moment une révolution. Une révolution ne peut pas ne pas se faire sur des bases morales. La révolution américaine s'est faite sur les bases du puritanisme. La révolution française s'est faite sur les bases de la philosophie des Lumières. Sur quelle base va se faire cette révolution-là? Personne ne le sait encore.
Mémoire du siècle, Dimitri Sezeman, par René Elkaïm Bollinger. Mixage, Josette Etier. Réalisation, Marie-France Nussbaum.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 9 février 1992. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».